quand on fait partie de l'équipe très proche d'un ministre, il y a toute une partie d'accompagnement psychologique.
Ça noue vraiment des sentiments personnels que vous n'auriez pas pour une entreprise, même si vous êtes très engagé.
T'as un impact sur chaque minute, sur chaque heure d'une autre personne.
On peut être amené à faire chauffeur, livreur, babysitter.
Nous sommes des aides de camp.
Notre rôle, c'est de régler des problèmes.
Il y a un côté assez rock'n'roll, quoi.
Trop payé par nos impôts, trop puissant sans avoir été élu, symbole du népotisme ou de la technocratie, les collaborateurs politiques alimentent tous les fantasmes d'une opinion qui ne connaît au fond pas vraiment le rôle de celles et ceux qui assistent nos élus. Pendant 3 ans, j'en ai rencontré des dizaines. Et certains ont accepté de me raconter la réalité de leur vie, la vie de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre des politiques. Je suis Mao Chaudouet-Delmas. Vous écoutez Les Ombres, un podcast de Slate.fr.
Comme pour tous les hommes de pouvoir, il y a des gens qui aiment bien lécher le cul des élus. Et du coup, ça te fait rire de les regarder, quoi. Et puis les gens qui se mettent à avoir des estimes. Je me souviens de... Le président, il buvait du thé. Et donc, la secrétaire lui amenait son thé. Et puis, elle disait, c'est le thé du président. Et mon collègue, ça lui faisait penser à Astérix et Cléopâtre, le dessin animé. Avec le mec qui crie. Donc là, c'était le thé de Cléopâtre. Là, c'était le thé du président. On s'imaginait qu'il y avait un mec qui criait « Le thé du président !» Que c'était un truc incroyable. Alors, c'était un thé, quoi.
Être collaborateur d'une personnalité politique, c'est faire preuve d'une loyauté et d'une fidélité sans faille. Parfois jusqu'à l'excès et la perte de tout esprit critique, comme vient de le raconter Christophe, ancien conseiller d'un président de région. Les collaborateurs deviennent alors des courtisans. Quoi qu'il en soit, la première mission exigée est sans aucun doute de soutenir l'élu. Professionnellement, idéologiquement, physiquement, moralement. François a 30 ans, il a servi plusieurs personnalités politiques et a travaillé au sein du Parti Socialiste avant de quitter ses fonctions fin 2020.
Je pense que le métier de collaborateur politique, c'est à la fois épouser la personne pour qui tu travailles ou l'institution pour qui tu travailles, mais plus la personne, tout en gardant une forme d'esprit critique. C'est-à-dire que j'estime que l'homme politique crée, ou la femme ou l'homme politique, pardon, crée en fait son propre contenu, sa politique. Ils n'ont jamais eu besoin de nous pour, entre guillemets, devenir des personnalités politiques. En tout cas, s'ils ont eu besoin de nous, c'est que c'est pas peut-être des très bonnes personnalités politiques. Moi, mon rôle a toujours été... C'est ce que disait le directeur de cabinet d'un maire pour qui j'ai travaillé. Nous sommes des aides de camp. On est là, en fait, pour l'aider, pour l'accompagner, pour le soutenir. Parce que souvent, l'homme ou la femme politique, ce qui est assez atypique, je ne pensais pas quand j'ai commencé ce métier, nous appelle souvent. Souvent pour parler de rien et quelquefois pour parler de boulot. Mais voilà, on est surtout là pour les écouter, pour échanger avec eux. Et c'est toujours ce que j'ai dit aux gens avec qui j'ai travaillé, en tout cas que j'ai embauché avec moi. J'ai toujours... Sachez qu'il y a la fiche de poste et il y a aussi ce que vous allez faire, qui est différent.
Les gens pour qui j'ai travaillé savent que je suis quelqu'un de très loyal, de très légitimiste. Et ça, dans le milieu politique, c'est très, très, très important.
À 23 ans, Mika a déjà participé à plusieurs campagnes électorales. Ce spécialiste des affaires publiques s'est illustré dans la communication politique et milite aujourd'hui pour l'Union de la gauche.
Parce qu'en fait, tu travailles avec des gens. Notamment, moi, je le vois un peu de manière fusionnelle. En fait, c'est rock'n'roll, parce que moi, je me suis occupé de l'agenda de différents élus. Il y a des moments où même des fois, tu es en lien avec leurs compagnons et leurs compagnes, parce qu'il faut que tu gères l'agenda de quand la personne rentre, de gérer des billets de train, de beaucoup, beaucoup d'agendas, donc beaucoup de déplacements. Et en fait, tu gères quand même. Je ne dis pas que tu gères la vie de quelqu'un, mais tu as un impact sur chaque minute, sur chaque heure d'une autre personne avec qui vous construisez en fait un moment de vie.
Spécificité du métier de collaborateur, il faut parfois gérer la vie personnelle de son patron. Le soutien à son élu peut être si fort qu'il confine à l'amitié, une relation intime qui conduit même à partager ses émotions, à compatir. Anna, ancienne conseillère ministérielle, dirige aujourd'hui le cabinet d'un adjoint d'une grande ville française. Elle revient sur un épisode qui la marque encore, 10 ans plus tard.
C'est des boulots qui sont hyper prenants et dans lesquels on est très investi. Mais il m'est arrivé, oui, d'être en empathie totale avec l'élu ou, en l'occurrence, la ministre. J'ai travaillé pour une ministre qui était très exposée, qui a été violemment interpellée parfois, qui a subi des remarques sexistes terribles, y compris dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et le jour où, et je pense qu'en racontant cette anecdote, tout le monde comprendra de qui il s'agissait, le jour où elle s'est levée pour répondre à une question d'actualité et que les députés sont mis à hurler et à la siffler sur sa robe et qu'elle avait les larmes aux yeux, franchement, c'était horrible. C'était horrible. Moi, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de les tuer. Enfin, c'était horrible. Mais ça, je pense que même aujourd'hui, je serais encore aussi débordée par mon émotion parce que c'était insupportable, en fait.
Les collaborateurs font preuve de loyauté et sont un soutien sans faille pour leurs élus. Mais ils sont aussi recrutés pour leur sens critique, leur intelligence et leur sens du conseil. Ils doivent faire preuve de recul et de sang-froid. Alors comment ça se passe quand un collaborateur n'est pas d'accord avec son élu ?
Ouais, ça m'est déjà arrivé d'être pas d'accord avec mes élus, avec mes candidats. Ouais, ça m'est déjà arrivé. La question, ouais, c'est que là, tu travailles pour la réussite de ton élu, de ta candidate, de ton candidat, donc tu fermes ta gueule. Alors, tu fermes ta gueule. T'es là pour lui dire ce que tu penses. Ok, moi je pense que c'est pas bon, tu devrais faire comme ça, attention. Par contre, une fois qu'il a pris la décision, bah en fait, tu l'accompagnes et c'est aussi l'exigence de staff, quoi. T'es pas d'accord, mais c'est pas grave, tu le défends. Même des fois, tu le défends même auprès de tes potes. Parce que c'est l'image de la personne que tu vas renvoyer. En fait, quand tu travailles pour quelqu'un, il faut que t'aies conscience, mais vraiment, hein, de manière puissante, que quand tu vas parler de la personne pour laquelle tu travailles, tu vas véhiculer une image. Et toi, en étant son collaborateur ou sa collaboratrice, c'est une image que tu dois préserver et protéger, quoi. Mais il te protège aussi, hein.
Alors, il peut bien sûr arriver des situations où on n'est pas d'accord avec son élu. C'est pas souvent, sinon il y a un problème. C'est-à-dire, si une situation comme ça se répète, il faut se poser des questions et ça veut dire qu'on n'est peut-être pas au bon endroit.
Jonathan a derrière lui 15 ans de vie politique et de militantisme. Ancien conseiller ministériel, ancien salarié d'un parti et d'un conseil régional, il dirige désormais le cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville.
En politique, on est censé travailler avec des gens avec qui on partage l'essentiel, non seulement des valeurs, mais aussi des idées programmatiques, etc. Mais il peut arriver effectivement qu'on ait un désaccord, et dans ces cas-là, il faut savoir sa place. C'est pas nous qui avons été sur une liste, sur le bulletin de vote. Moi, à chaque fois que j'ai eu un désaccord avec un élu, j'ai eu un malin plaisir à mettre encore plus d'énergie finalement à défendre sa position. Je pense qu'il y a une forme d'éthique du métier de collaborateur d'élu qui fait qu'on doit ne jamais perdre de vue que c'est pas nous qui avons été élus et on se doit de... Pour moi, c'est très clair, cette question-là, elle est même pas en débat. C'est-à-dire, sauf cas de conscience, mais ça n'arrive pas normalement puisqu'on partage un socle de valeurs, mais on se doit de mettre en œuvre ces orientations. Donc moi, quand je suis pas d'accord, je fais quand même. Et je suis pas sûr qu'il y ait tant de traite que ça dans la politique. Après, moi, j'ai fait un choix professionnel qui m'interroge encore beaucoup aujourd'hui, où je me suis posé la question, est-ce que j'ai trahi ma famille politique? Est-ce que j'ai été loyal envers mon élu? Où était ma loyauté? Et il m'arrive encore de me poser la question, est-ce que j'ai trahi? Est-ce que j'ai été fidèle à ce que je pensais? Mais après, ouais, on fait des choix et on les assume. Mais je me sens pas traître, mais on peut quand même se poser la question sur les choix qu'on peut faire. Effectivement, on est parfois mis face à certaines contradictions.
C'était dans une expérience ministérielle. Un jour, j'ai eu comme ça un sujet que je devais traiter et puis j'avais une ligne de désaccord très forte avec, à l'époque, c'était le directeur de cabinet du ministre.
Étienne a 35 ans. Il fait des allers-retours entre l'enseignement et la politique depuis 15 ans. Il a été collaborateur auprès d'un président de région, d'un ministre et aujourd'hui auprès d'un maire.
Je portais un dossier qui me tenait à cœur, et puis j'avais travaillé des mois dessus, j'avais réuni plein de monde, plein d'acteurs, pour faire en sorte qu'il y ait la concertation la plus honnête possible, ce qui aurait permis derrière d'arriver à une forme de consensus. Ce qui me semblait être en fait mon boulot, quoi. Et puis la meilleure façon de faire de la politique. Et le directeur de cabinet avait une autre vision qui ne tenait pas du tout compte de ce qu'on avait pu recueillir comme avis extérieur. Il voulait défendre une ligne qui était la sienne et passer en force. Et moi, ça me semblait
antidémocratique, ça me semblait même être nuisible pour notre action commune, collective, et qu'il fallait qu'on soit à la hauteur. Eh bien, le directeur de cabinet à l'époque m'avait dit « Écoute, si t'es pas content, tu prends la porte. Parce que c'est moi qui décide. » Et là, j'ai eu un dilemme. C'était soit je pars, soit je ravale ma fierté. C'est toujours un moment difficile à passer parce que on aimerait que les choses se passent de manière moins brutale, qu'elles se passent de manière plus délibérative, démocratique, bienveillante. Mais c'est souvent l'inverse, quoi. Le milieu politique est assez cruel pour ça. Quand on n'est pas d'accord avec son élu, on a plusieurs possibilités. Soit on a le courage de le lui dire. Là, ça dépendra de la personnalité de son élu. Il y a des élus qui sont tout à fait capables d'entendre la critique en interne, voire qui la recherchent. Et j'ai travaillé avec des gens qui étaient, de ce point de vue, assez sûrs d'eux-mêmes, assez courageux aussi, pour être capables d'accepter la critique et d'argumenter, et puis parfois même de raviser leur jugement. Il y a d'autres élus qui sont plus hermétiques à la critique. Ils considèrent que le collaborateur n'est pas là pour dire ce qu'il pense, mais pour exécuter les consignes. Et donc, on a des personnalités qui sont plus dans un rapport hiérarchique, strict. Donc, je dirais que ça dépend vraiment des personnes, quoi. Là, on a affaire à de l'humain. Il n'y a pas de règle générale qui puisse valoir. J'ai, pour ma part, un peu de mal avec les personnes qui n'acceptent absolument pas la critique. C'est un tort, ça m'a coûté parfois, mais en général, je l'ouvre et je dis ce que j'en pense. Et donc, ça peut créer du conflit, quoi. Si je veux bien faire mon travail, il faut que je torde un peu ma tendance spontanée à vouloir défendre mes convictions, ce en quoi je crois, à tout prix, et accepter que parfois ça se passe pas comme j'en ai envie. Alors ça coûte, hein, parce que, pour donner un exemple très concret, en ce moment, on a des polémiques à n'en plus finir sur les questions identitaires, les racistes qui ont pignon sur rue et qui se lâchent dans les médias. Ma tendance spontanée, c'est évidemment de demander à l'élu de référence avec laquelle je travaille, qui a une visibilité médiatique très forte, ma tendance, c'est de lui demander d'intervenir là-dessus, de s'engager très fortement pour taper sur Zemmour, sur Le Pen, sur les autres, etc. Je suis outré quand il y a des polémiques. Récemment, il y a eu une vidéo là de Zemmour avec une femme voilée. Évidemment, ça me donne tellement envie de vomir que j'aimerais qu'elle se lève et qu'elle dise « c'est pas possible, c'est insupportable », etc. Mais je comprends que s'ils ne souhaitent pas le faire, c'est pas que ça les dégoûte pas, c'est pas qu'ils ne condamnent pas, évidemment, c'est qu'ils considèrent que tactiquement, ce n'est pas opportun. Je dois accepter que leur stratégie politique pour porter leur message ne passe pas forcément par le fait d'entrer dans l'arène en permanence, de se laisser dicter l'agenda médiatique par Éric Zemmour, et qu'ils essaient de porter d'autres sujets. Donc, ça contrarie ma tendance spontanée, mais je me dis aussi que je comprends pourquoi ils le font. Et donc, j'ai beau ne pas être d'accord, parce que j'aimerais qu'ils y aillent un peu plus, j'accepte quand même qu'ils choisissent autre chose.
Si l'on comprend que le collaborateur a une liberté de parole limitée auprès de son élu, quelle liberté a-t-il en dehors de son travail ? Est-ce que sur son temps libre, il a le droit de s'exprimer ? Ou est-ce que l'exigence de loyauté le poursuit dans sa vie privée ? Ancienne conseillère en communication auprès d'un adjoint au maire, Lorraine parle du paradoxe qui traverse les collaborateurs, qui doivent être à la fois engagés et effacés.
Le collaborateur politique, il vit une situation qui est quand même un peu schizophrène, c'est que c'est quelqu'un qui est passionné de politique, donc qui aime ça, qui en général a envie de s'exprimer dessus, de porter des projets, d'accompagner des causes. Et à partir du moment où il devient collaborateur, sa parole n'est plus libre, parce qu'elle peut engager celle de son élu. Et donc, vous ne pouvez plus dire ce que vous souhaitez, vous ne pouvez plus vous exprimer. Si vous vous exprimez, en général, c'est sous le filtre que vous ne disiez rien qui soit en différence avec votre élu. Vous ne pouvez pas engager de projet tout en étant passionné par la matière. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. C'est vraiment une liberté dont on pourrait estimer qu'elle doit être rémunérée, en fait, parce que c'est le fait de se couper quand même d'une part de sa citoyenneté et finalement d'avoir moins le droit que les autres de participer au débat public. Et c'est pas du tout pensé comme ça. Et on considère que ça fait partie du service normal du collaborateur qui va évidemment pas prendre la parole pour critiquer une politique de son élu ou autre d'ailleurs. Et du coup, c'est étonnant que ça pose pas question dans le milieu politique et que ça permette pas des évolutions. Mais en tout cas, c'est une question qui devrait vraiment interroger le monde politique.
Poussons un peu la problématique. Si on demande aux collaborateurs de s'effacer entièrement, si on recrute des assistants sans conviction ni engagement, si on professionnalise la fonction tout en la dépolitisant, est-ce qu'on ne risque pas la disparition du débat d'idées et l'appauvrissement de notre vie politique ? Esther, ancienne chef de cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville française, évoque cette dérive dans les profils des collaborateurs et ses conséquences pour la vitalité de notre démocratie.
Le profil du collaborateur qui a juste envie d'être collaborateur pour être collaborateur, qui aime bien la fonction publique et qui fait des sauts de puce et tout, c'est un truc que j'ai plus de mal à comprendre, quoi. Parce que, et en même temps, c'est envisageable, ça veut dire que ça peut être des gens qui aiment bien le service public, qui aiment bien l'idée des politiques publiques et qui, du coup, vont se balader, vont explorer des sujets, ont besoin d'évoluer et pourquoi pas. Mais moi, à titre perso, je pourrais pas m'empêcher d'avoir une lecture peut-être un peu dure de des profils un peu... qui aiment juste bien une certaine idée du pouvoir et du prestige qui peut être associé à ces fonctions-là, quitte à être parfois dans un exercice de compromission totale sur le plan des convictions profondes, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais pas été capable, et c'est aussi une question qui s'est posée quand j'ai envisagé quand j'ai décidé de partir, je me suis dit, c'est une chose de bosser sur des sujets de conditions animales, par exemple, dans un ministère. Mais pour quel ministre, pour quel président? C'est-à-dire, je construis un plan de carrière, mais en fait, je suis dépendante d'élections, je sais pas ce qui va se passer. Donc moi, je peux pas dire, ça me va, quoi qu'il en soit, de bosser dans un cabinet politique pour un ministre dont je connaîtrai à l'avance ni l'identité, ni donc a fortiori les convictions, les trucs. Et donc, bosser en cabinet politique pour bosser en cabinet politique, au mépris parfois de ses propres convictions, je trouve pas ça particulièrement noble comme exercice et je comprends pas trop en réalité. Quand on demande à un collaborateur politique dans un cabinet politique d'avoir une approche politique versus des services qui ne sont pas politiques, en même temps ce qu'il faut noter c'est que statistiquement, la plupart aujourd'hui des collaborateurs dans les cabinets politiques ne sont pas encartés. Alors qu'il y a 10 ans, ils l'étaient tous. C'est un peu bizarre comme phénomène, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, du coup, faire de la politique sans être soi-même politisé, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, on va défendre ses convictions, et puis on va passer à la moulinette politique de son élu quand ça passe par lui, mais quand ça passe pas par lui, ce ne sont que ses propres convictions, quoi. Et donc, moi, comme mes sujets, ils sont presque apolitiques, parce que tout le monde est aujourd'hui d'accord pour dire il faut faire attention à la biodiversité, et la condition animale, c'est un sujet qui est tellement nouveau que c'est... pas bien intégré par le politique, donc c'est pas un sujet qui est chargé politiquement. D'ailleurs, c'est super transpartisan. C'est les premiers sujets sur lesquels on voit que l'ultra-droite est hyper d'accord avec la gauche et le centre. Enfin, c'est rigolo. Donc moi, je m'en sors, mais c'est une posture qui est bizarre quand tu y réfléchis, quoi. Et ce déclin qui est un truc qui se voit statistiquement et qu'on voit parce que quand on discute, il y a un master de la Sorbonne qui est dédié littéralement à la formation de collaborateurs, en fait. Et les promos d'il y a 15 ans, ils étaient tous encartés et aujourd'hui, ils sont plus encartés. Je trouve ça marrant comme phénomène, quoi. Enfin, ça interroge, quoi.
Je pense qu'il y a une évolution, moi, dans les manières dont se jouent les campagnes électorales aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé la politique il y a 10 ans, les partis politiques étaient encore un peu plus forts. Et au fond, on faisait des campagnes pour des personnalités qui nous inspiraient et qui on considérait que c'était les meilleurs porte-parole de nos idées. Mais on partageait aussi un socle idéologique fort, puisqu'on a milité ensemble dans une organisation, on est structuré aussi idéologiquement ensemble, on a une colonne vertébrale en commun. Et finalement, on fait campagne pour notre candidat, mais aussi pour notre famille politique, pour notre socle programmatique. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, mais c'est peut-être un sentiment de vieux con ou qui pense que c'était mieux avant, parce que je vieillis, mais c'est que avec l'affaiblissement des structures collectives type syndicats, partis politiques, on est sur une part plus importante donnée aux incarnations et aux personnalités. En fait, on est sur des campagnes personnelles et moins sur des campagnes de projet. Ça paraît complètement bateau de dire ça, mais je pense qu'il y avait quand même plus ça avant. Moi, j'étais plus facilement capable, je pense, avant que les jeunes d'aujourd'hui, de faire campagne pour des gens, même avec des gens pour lesquels j'avais pas d'admiration ou à qui je partageais pas tout, parce que je savais qu'on était dans un grand bateau. Aujourd'hui, on est tous, c'est que des mecs sur des jet skis qui vont très vite, mais qui sont tout seuls. Et je trouve ça, moi, plus difficile. Et du coup, c'est pour s'engager aujourd'hui pour une personnalité politique, j'ai le sentiment qu'il faut Il faut vraiment, effectivement, être en phase personnellement avec elle, mais on ne sait pas vraiment toujours ce qu'ils pensent. Je vois qu'aujourd'hui, je sais pas moi, ceux qui s'engagent pour Édouard Philippe, pourquoi ils s'engagent au fond? Ils s'engagent pour lui, pour l'image qu'ils ont de cette personne-là, mais son parti s'appelle Horizon. Horizon, ça veut rien dire. On ne sait pas si c'est vraiment quel type de valeur ça traduit. On sait que le gars est plutôt centre-droit. Mais au fond, c'est pour lui que ces gens-là vont dans Horizon. C'est pour cette personnalité. C'est pas pour le gaullisme historique ou que sais-je encore, quoi. Et donc, moi, je vois ça. Je trouve que c'est en tout cas une évolution, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que j'ai l'impression que il y a une individualisation ou une atomisation, en tout cas, de la politique aujourd'hui, qui est beaucoup plus centrée sur les personnalités que sur les idées.
C'est à se demander, même, si les collaborateurs ne sont pas une espèce en voie de disparition. Louis, haut fonctionnaire, pose la question de la nécessité des conseillers politiques.
Je pense que les responsables politiques ont besoin d'être accompagnés, techniquement, juridiquement, etc., dans leur prise de décision, c'est nécessaire. Savoir ensuite s'ils ont besoin de professionnels directement à leur main pour être éclairés de la sorte, c'est pas sûr. Bien souvent, les responsables politiques sont dans des organisations où ils peuvent déjà s'appuyer sur des fonctionnaires qui ne font pas partie de leur cabinet ou de leur équipe rapprochée. Sans doute d'ailleurs, d'une certaine manière, que la prolifération des cabinets ministériels, des cabinets autour d'élus, etc., sont un symptôme aussi du dépérissement de la politique. En Allemagne, je suis pas spécialiste de l'Allemagne, mais de ce que je comprends, les cabinets, par exemple, autour des responsables gouvernementaux ou au niveau des Länder sont beaucoup moins charpentés et pléthoriques qu'en France. Donc, si la question est de savoir, faut-il des personnes capables de satisfaire le besoin de technicité inhérent à toute décision publique, politique que va prendre un responsable, est-ce que ce besoin-là, il existe? Évidemment. Ensuite, qui doit le satisfaire? Est-ce que ce besoin de technicité, il incombe à des fonctionnaires de toute administration, hein, je sais pas moi, parlementaire, exécutive, nationale, européenne, de le satisfaire ou à une équipe rapprochée, très rapprochée, qui peut avoir ses connaissances techniques, mais qui a priori aura la spécificité d'être en ligne politiquement avec la personnalité qu'on sert? Est-ce qu'il existe ce besoin-là d'entourage autour des personnalités politiques? Oui, je pense que oui, c'est clair, il y a ce double besoin-là. Ensuite, il faut voir comment tout ça se met en musique.
Vous venez d'écouter Les Ombres, un podcast de Mao Chaudouet-Delmas, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Thomas Loupias. Illustration, Ruben Cohen. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.